Bonjour auditeurs, auditrices, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM sur les ondes et aussi en ligne. La radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. On est dans l'émission, on a déjà traité le sujet, on est ravis de vous retrouver. C'est l'émission de l'association ADOC, l'association des cinéastes documentaristes. Et on est super heureuse, au féminin, heureuse.
Ah, il y a des filles aujourd'hui.
Exactement, parce qu'on reçoit aujourd'hui dans le studio, déjà à mes côtés, Mélanie Trachler qui présente cette émission. Et on reçoit Marie Beautois pour son film Le Passage du Col. Bonjour, bonjour Marie. Bonjour. Et Pauline Pénichou pour Matt et les Gravitantes.
Bonjour.
Salut Pauline. À la technique aujourd'hui, Anne Galland et Marcia. Et puis tout à l'heure, on retrouvera l'agenda avec Colline. Alors, deux films aujourd'hui, donc Le Passage du Col et Matt et les Gravitantes. Deux films à la fois proches et différents dans leur choix technique, dans leur choix de mise en scène, dans les choix des personnages. On va en parler ensemble. Et proches dans ce qu'ils racontent du rapport, de la volonté, voire même de la nécessité des femmes de connaître, de s'approprier la connaissance de notre anatomie intime, nous les femmes. Alors Marie Beautois, tu as donc réalisé Le Passage du Col. Tu es réalisatrice et monteuse. Après ta formation à l'école documentaire de l'USAS, tu réalises Slow Ahead, réalisé et produit par Le Grec en 2015, c'est ça ?
Slow Ahead, oui. Produit par Le Grec.
Slow Ahead.
Slow Ahead, ouais, ça veut dire en avant lente.
En avant lente. Tu te consacres ensuite au montage et deviens membre des laboratoires partagés L'Etna et l'Abominable, où tu explores les techniques artisanales du cinéma argentique. Soutenue par le collectif féministe de L'Etna, La Poudrière, tu produis et réalises Le Passage du Col en 2022. Il est sélectionné au Film Marseille. Le film remporte le prix Doc Alliance 2023 et est sélectionné pour le César 2024 du court-métrage documentaire.
Oui.
Ok. Donc le résumé du film, je reprends le petit résumé que tu partages souvent dans ta com. Donc Léna est la sage-femme, je suis la patiente. Elle renouvelle mon stérilet et je mets en scène notre rendez-vous. La caméra devient un miroir alors que se tisse une relation de soins. Une relation de soins donc avec la sage-femme qui joue son propre rôle et une relation aussi pendant la fabrication du film, avec l'équipe féminine du film, issue du groupe de cinéastes féministes La Poudrière.
Tout à fait.
Ainsi, ce film évoque dans le propos et la forme les images tournées dans les années 70 par les femmes du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
Oui.
Alors, la force et l'originalité du film résident dans ce récit-expérience. Le plan du col de l'utérus apparaît dans le frémissement de la pellicule comme un paysage étrange. Récit-expérience, voire performance, point d'interrogation. Tu nous diras ce que tu en penses de ce terme performance, car tu es dans une position d'extrême vulnérabilité pour la pose du stérilet, les jambes écartées sur les étriers, une position que la plupart des femmes ont déjà vécue lors de consultations gynécologiques, sans jamais vraiment comprendre le geste médical ou sans être correctement informées, préparées, écoutées. Et pourtant, il s'agit de leur corps et le geste n'est pas anodin. Il peut même et souvent être douloureux, parce que c'est quand même un geste invasif, comme le frottis par exemple. Invasif, c'est une méthode d'exploration médicale ou de soins nécessitant une lésion de l'organisme. Donc dans ce sens, c'est pas du tout anodin. Donc ce qu'on peut faire, on peut écouter un extrait et puis ensuite, on va parler de tout ça.
Super.
Tout de suite, un premier extrait.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez pour votre pose de stérilet ?
Oui.
Est-ce que vous avez ramené la boîte ?
Oui, je l'ai ramenée et j'aimerais bien qu'on regarde ensemble.
On va regarder ça alors.
Ce qu'il y a dedans. Elle est énorme, ça fait un peu peur.
Tout va bien se passer. Vous avez déjà regardé?
J'ai regardé un peu comme ça, mais ça m'a fait un peu peur.
J'ai trois spéculums, c'est juste parce qu'il y a des tailles différentes. Un rouge, un bleu, un vert.
D'accord.
On prendra le bleu.
D'accord. Ok.
Donc ça, ce sont les instruments de pose. Donc là, on a la pince de posi, elle sert à maintenir le col.
Okay.
Ça, c'est la pince qui servira à sortir le stérilet.
D'accord.
Que vous avez déjà. Et ça, ce sera les ciseaux qui servent à couper le fil après la pose.
Ok.
Ça va?
Ça va.
Vous voyez, le stérilet, c'est juste la petite partie en cuivre qui est ici. Et là, on a les branches qui vont servir à maintenir le stérilet dans la cavité utérine.
D'accord.
Et vous sortez un tube inserteur. Et pour le placer, je vais vous montrer avec un stérilet de démo. Et... donc il va être comme ça.
Ouais.
Donc là il est comme ça, pareil. Donc, je vais tirer sur les fils.
Donc là il est rentré dans le tube comme
ouais.
Ici, d'accord?
Exactement. Ouais. Donc ça c'est un utérus en plastique. Et je vais passer tout à travers donc, le spéculum. Là ça c'est le col de l'utérus.
D'accord.
Du coup je vais passer comme ça. Et quand je serai au bon endroit, je le pousse. Et après il va s'insérer dans l'utérus.
Ok.
Et j'enlève tout. Et après je couperai les fils là 2-3 cm du
d'accord.
Col.
Et ça, ça prend combien de temps?
2-3 minutes.
Ok. Et ça fait pas mal.
On verra.
Normalement.
Normalement, ça fait pas hyper mal,
d'accord.
Mais ça peut provoquer comme des contractions.
D'accord.
Comme l'espace de l'utérus et comme des douleurs de règles un peu fortes.
Ouais. Ok.
Ouais.
D'accord.
Vous avez des questions?
Ouais. Ça, vous m'avez dit que c'est le spéculum que vous allez utiliser.
Oui.
Pourquoi celui-là?
Parce que c'est le plus petit des trois et comme vous n'avez pas encore eu d'enfant, je pense que ça suffira en termes de dimension.
Ok. Et sinon, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que lors de la pose de mon premier stérilet, j'ai eu super mal. C'est une médecin que je connaissais pas tellement qui me l'a posé. Et en fait, je crois qu'elle a utilisé cette pince, la pince de posi. De posi, c'est ça?
De posi.
Ouais, c'est ces pics-là qui servent à attraper l'utérus. Elle m'a pas trop prévenue, en fait, elle m'a dit ça va un peu pincer et en fait j'ai fait un malaise vagal. Du coup, je suis un peu. Enfin voilà, j'ai un peu peur d'avoir mal quoi. Du coup, si jamais vous devez l'utiliser, j'aimerais bien sûr que vous me préveniez et puis surtout que. Enfin, qu'on voit ensemble si du coup c'est nécessaire de continuer ou s'il faut mieux pas que je revienne plus tard quoi pour le. Ouais, voilà.
Normalement, je l'utilise pas.
D'accord. Et en fait, pourquoi il y a besoin de l'utiliser ou pas
Parce que parfois, il y a des cols qui bougent,
d'accord.
Qui partent, et du coup, ça permet de le maintenir.
D'accord.
Pour arriver à poser bien le stérilet.
D'accord. Mais on peut faire sans.
Ouais.
D'accord.
On vient d'écouter un extrait du passage du col, réalisé par Marie Beautoy. Et Marie Beautoy est là avec nous dans le studio. Alors, ce premier extrait, c'est le début du film. Ce qui est intéressant, c'est que le générique commence par un échange entre l'équipe du film.
Oui.
Et ensuite, donc, s'installe la relation entre la sage-femme et toi. Il y a la présence aussi de ces noirs à l'écran. Peut-être que tu peux, dans un premier temps, nous dire... on aime bien savoir quelle était l'origine, le premier désir de ce film... à l'intérieur de ton parcours et ensuite peut-être que tu pourras nous expliquer le choix finalement de ce début avec l'échange avec l'équipe et ensuite cette relation avec la sage-femme.
Donc l'idée du film, elle est vraiment née de la rencontre avec cette sage-femme, Léna, que j'ai rencontrée sur Doctolib. J'ai pris rendez-vous un peu au hasard avec une sage-femme parce que j'avais découvert qu'on pouvait aller voir des sages-femmes pour un suivi gynécologique classique. Enfin, qu'on n'était pas obligé d'aller voir des gynécologues pour ça et que voilà, c'est plus rapide en général d'avoir un rendez-vous avec une sage-femme. Et c'est aussi moins coûteux. En fait, c'est souvent des consultations qui sont remboursées par l'assurance maladie à 100%. Enfin, et du coup, bref, j'avais pris rendez-vous par hasard et je suis tombée sur elle. Et ça, c'était, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment bouleversée par cette rencontre parce que c'était la première fois que j'avais un rendez-vous gynéco qui se passait vraiment bien, où j'avais l'impression d'être considérée comme une personne et pas seulement comme un corps, un sexe et un sujet d'observation, quoi. Et j'avais vraiment prise sur ce qui se passait. Elle me demandait tout le temps si j'étais prête à ce qu'elle fasse chacun de ses gestes et tout ça. Donc il y avait une vraie demande de consentement. Elle m'a laissé parler de mes peurs, elle m'a posé des questions, elle m'a demandé si j'en avais. Et du coup, cette première rencontre avec cette professionnelle de santé, quoi, m'a fait prendre conscience qu'il existait d'autres types de rendez-vous gynéco que ceux que j'avais vécu jusque-là, et que, en fait, tout ce que j'avais vécu avant, c'était pas normal, en fait. C'était pas normal de se sentir mal lors d'un rendez-vous médical, d'avoir peur de poser des questions, d'être tendue et tout ça, qu'en fait, enfin voilà, c'était pas la norme, quoi. Et donc j'en ai pas mal parlé autour de moi de cette rencontre, et j'en ai aussi parlé avec les copines du collectif féministe La Poudrière, qui est donc un collectif de cinéastes qui a été créé en 2016 au sein du laboratoire de cinéma argentique L'Etna à Montreuil. Et avec les copines, voilà, du groupe, mais aussi d'autres amis, je me suis rendu compte que les expériences gynéco que j'avais eues jusque-là étaient très largement partagées. Et du coup, j'ai proposé à plusieurs amis d'aller voir cette sage-femme parce qu'elle cherchait quelqu'un, quoi, et elles sont ressorties comme moi, assez bouleversées. Donc je me suis dit, oui, il y a vraiment un truc avec cette personne. Et donc ça, c'est un des éléments, quoi, déclencheur du film. Ensuite, oui, parce que du coup, quelques années après, je devais renouveler mon stérilet. Lors de la pose de mon premier stérilet, j'avais fait un malaise vagal que j'explique dans le film. Et du coup, j'avais très peur de cette expérience, donc je me suis dit, bah, ça va être avec elle que je vais faire le renouvellement de ma contraception. Et puis, voilà, petit à petit est venue l'idée de, enfin, qu'il fallait montrer, en fait, que ça pouvait bien se passer. Donc je me suis dit, bah, ça pourrait être bien d'en faire quelque chose, quoi. Et en fait, cette rencontre, elle a été aussi donc concomitante à ce groupe féministe en non-mixité, La Poudrière, où on s'est beaucoup filmé, en fait, les unes les autres, en 16 mm et en Super 8. On a pas mal travaillé sur la représentation de nos corps. Pour la première fois, je suis passée devant la caméra aussi au sein de ce groupe. J'ai fait confiance à des personnes pour me filmer.
Ça, tu veux dire donc avant le film, avant le passage du col?
Oui.
D'accord.
Voilà, ouais, les premières expériences avec La Poudrière, c'est à partir de 2016. Et en fait, le film Le passage du col, je l'ai tourné fin 2019. Et il y avait ces expériences-là qui m'ont donné confiance aussi, parce que bah voilà, c'est très intimidant de passer devant la caméra. Et puis au sein de ce collectif, il y avait une réalisatrice, Anna Salzberg, qui était en train de réaliser son film le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune. Et dans le cadre de son film, elle a fait pas mal de recherches dans les archives du MLAC. Et elle avait trouvé des images faites par le MLAC de Gennevilliers, des photographies et des films, Super 8, où les femmes s'étaient filmées lors de séances un peu d'autogynéco, quoi, pour s'apprendre à placer un spéculum, un stérilet, et voilà, enfin, au-delà des pratiques et de l'organisation autour de la pratique des avortements qu'il y avait, il y avait aussi cette volonté juste de se transmettre des gestes simples, en fait, liés à notre santé, quoi. Et donc j'ai vu pour la première fois des photographies magnifiques, quoi, de col de l'utérus. Enfin voilà, c'était incroyable de voir ces images et de me dire, enfin, qu'elles avaient traversé, enfin voilà, de toutes ces années sans qu'elles soient parvenues jusqu'à nous. En fait, on est très peu, en fait, à avoir vu ces images, quoi.
Elles les avaient trouvées où, ces images, là, du coup?
Avec dans les archives, quoi, du MLAC de Gennevilliers, mais c'est pas des archives qui sont bien référencées, forcément, c'est quoi. C'était chez des personnes, parfois, ça a été un peu oublié, enfin, voilà. D'ailleurs, elle est en train de faire un travail, là, pour éditer avec le collectif Synapse à Montreuil. Elles sont en train d'éditer
un
DVD.
Pour valoriser ses archives et les diffuser un peu plus, pour qu'elles soient plus visibles.
Complètement. Pour en parler, les remettre en contexte et puis les montrer. Parce qu'il y a aussi des films super, quoi. Et donc, j'ai découvert ces images et, en fait, de les voir, je me suis dit, bon, bah,
quelque part, ça a déjà été fait dans les années 70, mais en fait, ça n'a pas, enfin, ça nous est pas parvenu. Il y a, ça veut dire qu'il y a encore, c'est encore tabou en fait. Enfin, il y a besoin de refaire des images. De... Et puis, le fait que d'autres l'aient fait avant moi, ça m'a aussi donné la force pour le faire. Ouais. Voilà.
Ok.
Et du coup, j'ai, ben voilà. Et puis, entre temps, j'ai aussi lu Martin Winkler, qui est un écrivain, un gynécologue. Qui m'a fait réaliser en fait ce qui s'était passé lors de la pose de mon premier stérilet, c'est-à-dire l'utilisation enfin d'une pince qui s'appelle la pince de Pozzi, qui est un peu un instrument de torture en fait, voilà, dont je parle dans le film. Et en fait, lui, dans ses ouvrages et dans sur son blog, explique qu'en fait c'est une pince qui est très fréquemment utilisée en France pour faciliter les examens gynéco pour les personnels de santé, quoi. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement douloureux. Et lui, il explique que bah, ça peut provoquer des malaises vagaux et tout ça. Et du coup, bah, j'ai compris que c'était ça qui m'était arrivé. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le raconte dans le film.
Il t'a fallu du temps pour enquêter, pour savoir pourquoi tu avais fait ce malaise. C'est incroyable.
Complètement. Parce que la pose du stérilet, elle date de 2012, la première pose. Du coup, j'ai pensé que c'était, voilà, c'était moi, quoi.
Il en a fallu des rencontres, de la confiance, à la fois. Donc, il est profondément documentaire, ton film, en fait, puisque oui. Ça vient vraiment d'une expérience intime, personnelle. Et c'est une histoire de rencontres aussi, de belles rencontres. Mmh. Peut-être qu'on peut présenter Pauline.
Tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais justement, vous avez ça en commun, c'est ce film de Black. Je pense que tu l'as vu aussi, Pauline.
Moi, je n'ai pas vu et je suis hyper curieuse de voir les images des films du Black de Gennevilliers. Moi, le film du Black que j'ai vu,
c'est
Regarde, elle a les yeux grands ouverts de Yann Lemasson.
Et femmes du Black d'Aix-en-Provence.
Et des femmes du Black d'Aix-en-Provence, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, moi, c'est ce film-là que j'ai vu et qui m'a infusé un peu un désir d'image. J'ai été amenée à faire mon film.
Je vais te faire une petite bio. Bah, tu peux me couper, hein, de toute façon, si... Parce qu'on se découvre aussi, c'est une rencontre aussi pour nous toutes. Donc, alors, toi, tu es réalisatrice, directrice de la photo, mais moi, assistante opératrice, tu as filmé pour Nicolas Philibert, entre autres, dans L'Adamante.
J'assiste Nicolas Philibert sur ses films autour de la psychiatrie.
Récemment, en 2024, donc, tu sors une première autofiction, Vers le Nord,
ouais.
Qui a été diffusée au festival Côté Court de Pantin.
Oui.
Voilà. Et donc, toi, c'est en 2016 aussi, après une licence de mathématiques, que tu intègres la FEMIS, en département images. Maths, télégravitante est ton premier film de fin d'études, avec lequel tu remportes plusieurs prix. Donc, à Vision du Réel, aux écrans documentaires, et au Festival international de courts-métrages de Clermont-Ferrand.
Oui.
Tu t'intéresses aux pratiques de soins et de prise en charge au sein de groupes féminins.
Dans le film.
Que dans le film, par
enfin,
contre.
Enfin, non, dans la vie aussi, je veux dire. Dans ce film-là, oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais.
Dans Math et les gravitants, donc, tu dresses le portrait d'une jeune féministe. Math et ses amis organisent un atelier d'autogynécologie dans un squat à Nantes pour se regarder et se connaître soi-même. Dans la première scène, donc, deux sœurs prennent un bain, se coiffent les cheveux, se massent. Il s'agit de prendre soin de soi entre femmes. C'est un film sur sa propre connaissance comme moyen de s'affranchir des schémas traditionnels. Math est filmée à travers ses questionnements personnels et collectifs sur le rapport qu'elle a à l'amour, au sexe, mais surtout à elle-même. On découvre également les liens que les gravitantes... Alors, les gravitantes, tu me coupes, mais apparemment, c'est comme ça qu'elles se nomment entre elles au sein du squat.
Ouais, c'est ça. C'était un mot que j'entendais beaucoup quand j'étais là-bas à Nantes, que les gens utilisaient pour parler de, justement, le fait qu'on est... Enfin, les personnes qui gravitent autour d'un lieu, quoi. Et voilà, ce mot m'a plu. Je l'ai mis dans le titre du film.
Donc, en fait, oui. Alors, donc, les liens que les gravitantes, elles entretiennent entre elles. Donc, on va tout de suite écouter un extrait pour vraiment... et c'est Math, donc, qui est en plan moyen. Enfin, c'est Math qui parle, quoi. Dès le premier... pour nous mettre dans le bain, un premier extrait.
De quoi ?
Ben de cet atelier-là, que ça me travaille.
Mais pourquoi ?
Je sais pas, j'ai repensé à la sensation du spéculum dans le vagin. Plein de fois. Et je crois que j'ai envie de le refaire. je l'ai fait qu'une fois et en fait c'était vachement bizarre de se voir et tout, et ça m'intrigue trop de le refaire là, j'ai trop envie. Mais après il faut tout un temps de discussion et tout avant de façon pour se mettre à l'aise, mais je crois que j'ai bien envie que ça commence.
Voilà. On y va du coup.
Bonne exploration.
Merci bien. Mais quel joli clitoris.
Ah, une fleur.
On dirait une tulipe, je trouve.
Une belle tulipe.
Bah ouais, tu trouves.
Je sais pas. Bah à l'envers, ça fait tulipe, regarde.
Ça fait... Oh, c'est trop beau.
Quand ouais. Tu vas à l'envers, tout ça fait plus orchidée.
Ça veut dire testicule à la base.
Ah ouais,
ouais. Orchidée, c'est les testicules. La maladie.
Ouais, il y a ce truc qu'on m'a dit un jour que je trouve trop ouf. C'est aussi sur cette représentation du vagin. Qui très souvent le vagin il est représenté comme ça dans plein de trucs, alors qu'en fait et ça laisse un peu supposer que le vagin c'est un espace ouvert prêt à accueillir le pénis, c'est l'empreinte du pénis, alors qu'en fait en vrai le vagin il est fermé quoi quand il y a rien dedans, et il y a plein de représentations de livres médicaux où le vagin il est comme ça, et c'est une copine qui avait fait remarquer ça et je trouve que c'est vrai que c'est trop intéressant.
Et ça se voit pas aussi que c'est, on a l'impression que tout est droit. Alors qu'en fait, c'est très embillé, quoi. C'est, en fait, la meilleure vue, c'est le profil, parce que tu vois que c'est pas droit. Ouais.
Là, on a l'impression que le col de l'utérus, il est au bout. Genre que le vagin donne sur le col de l'utérus, alors qu'en vrai, c'est pas ça, quoi.
Ouais, ouais,
le col de l'utérus, il y a un endroit vers la fin, mais...
Voilà, l'idée, c'est quand on tire, ça s'ouvre, quand on pousse, ça se ferme. Dans l'idée, on le met fermé, et puis on l'ouvre comme on veut, et on fait hop. On tourne la petite truc là qui est plus large dans ce sens.
Alors c'est un peu gonflé comme film de d'études quand même. Quoi. Je sais pas ce qu'a dit
mes profs.
Tes profs, ouais.
Non, bah en fait, oui, en gros, moi le point de départ du film, c'était même pas tant cette idée de l'autogynécologie, c'était de faire un portrait de Matt. Que j'avais rencontré quelques mois avant la période où j'allais devoir faire mon
film. À quelle occasion tu la rencontres justement, Matt ?
Pendant des vacances, c'était une amie d'amis, et voilà, enfin, c'était l'été, il y avait vraiment rien de spécial, quoi. On a passé des moments ensemble et tout. Et c'est juste que, en fait, c'était une période où, peut-être un peu comme toi, enfin pas dans un collectif de cinéastes, mais je faisais pas mal de réunions en non-mixité. Mixité sans mec cis, quoi. Et du coup c'était, enfin on réfléchissait un peu à plein de sujets autour du féminisme et dont l'autogynécologie, mais je veux dire moi c'était plus à la base de faire un portrait de Matt, l'envie du film, et de, en fait c'est juste que j'ai décidé, comme elle habitait pas à Paris, sur l'aspect un peu juste logistique et technique du film, je me suis dit bah je vais, comme je veux faire un documentaire, je vais passer un certain temps à Nantes. À l'époque elle habitait à Nantes, et puis je la filmerai voilà, pas forcément tous les jours mais un peu régulièrement, et en fait en allant vivre un mois à Nantes pas loin d'elle, j'ai rencontré aussi un peu les groupes dans lesquels elle faisait des choses, et à ce moment-là, il s'avère qu'elles ont... Et avec moi, du coup, on s'est dit qu'on pouvait organiser cet atelier d'autogynécologie. Et voilà. Et ensuite, du coup, j'ai filmé ça, mais j'avais filmé d'autres choses aussi. Il y aurait pu y avoir plusieurs fils possibles pour parler de Matt, parce que de toute façon, un portrait, quand on fait du cinéma, c'est jamais qu'une facette de quelqu'un. Et c'est pas... Enfin, voilà, il y a de la mise en scène, il y a la relation et tout ça aussi. Donc, mais en tout cas, ensuite, quand on a fait le montage avec Sarah Dinelli, qui était étudiante à la Fémis aussi, avec moi, on a revu un peu ces images-là. Enfin, moi, je les avais filmées, mais je les ai redécouvertes, en fait, au montage.
C'est sombre, donc c'est vrai que...
C'est sombre, voilà. Enfin, moi, je pense que j'étais aussi un peu...
impressionné.
Enfin, oui, bah complètement. Enfin, quand on cadre dans un moment comme ça où c'est, enfin voilà, il y a le, on est sur le moment, mais ensuite on redécouvre toujours un peu ces images au dérush, quoi. Et quand on a vu ce moment avec Sarah, on s'est dit qu'il fallait centrer le film sur ça, quoi. Et de toute façon, à la Fémis, on fait des courts métrages, donc voilà. On a ensuite, on s'est dit, il faut que ce soit ça le film. Voilà, je sais plus ce que c'était la question.
Enfin, je voulais savoir la jeunesse de ton film, donc c'est ce que tu as raconté, effectivement. Bah, en gros, c'est ça. D'où vient cette idée.
Bien que. On ressent bien ton désir de faire un portrait de Matt, parce que tout au long de ton film, on ressent vraiment son évolution. On ressent son émotion à faire ses explorations. On ressent que ça va en augmentant finalement sa joie, de faire ses explorations. D'ailleurs, elles le disent dans l'extrait, elles disent « bonne exploration ». Donc, Matt, on l'imagine un peu comme une exploratrice qui fait des découvertes incroyables qui la rendent de plus en plus heureuse, quoi.
Ouais. Oui, oui, bah, complètement. Et puis même avec les... C'était assez marrant, comment tout était un peu artisanal. Et du coup, on était avec les petites lampes frontales, les trucs où c'est un peu sombre. Et puis du coup, il faut les lampes torches pour bien voir et tout. Enfin, c'est sûr que... Du coup, même au niveau de l'image, ça ajoute un peu... pareil, en regardant les images ensuite a posteriori, et ça, c'était pas quelque chose dont j'avais conscience sur le moment, mais ouais, il y a cette dimension d'exploration et d'aller... Enfin oui, c'est pour ça aussi les gravitantes, je trouve ça fait un peu... Enfin, c'est pas Matt et les exploratrices, mais ça aurait pu être ça, quoi.
Vous étiez mise d'accord à jusqu'où on peut aller, tout ça, avant la scène, comment ça s'est passé, en fait?
Moi, en gros, j'avais fait partie vraiment... Enfin, je faisais partie du petit groupe. On était allés acheter donc, les spéculums ensemble, etc. On avait fait tourner un petit SMS pour dire aux personnes qui veulent, venez, on organise cet atelier. Et ensuite, je pense qu'on l'avait mis même dans le SMS, ce sera, il y a une caméra, mais dans tous les cas, moi, à chaque fois, bien sûr, je demandais, et en fait, de toute façon, j'étais avec ma caméra et Flavia qui prenait le son juste à côté, donc on pouvait pas nous manquer, mais il y avait certaines personnes qui voulaient pas être filmées, il y avait certaines personnes qui voulaient bien être enregistrées, mais pas filmées, au son, j'entends. Donc, je me suis adaptée à chaque personne, et puis aussi les personnes qui ont voulu faire l'observation et être filmées. On était dans une petite pièce séparée des autres, et voilà. Enfin, il y a eu aussi, il y a eu d'abord tout ce... C'est ce que j'ai essayé de restituer un petit peu dans le film, et bien sûr, l'atelier a duré toute une soirée, donc mon film, il fait 20 minutes, il n'y a pas tout. Mais il y avait d'abord un premier temps donc, de discussion avec les documents et ce qu'on a entendu dans l'extrait, où elle regarde et on regarde des planches anatomiques et on en discute et tout ça. Et ensuite, le moment où on est allé... faire l'observation avec les spéculums, et voilà.
Et après, il y a le débrief.
Et après, il y a le débrief qui était une semaine plus tard. Ouais.
Ah, ok.
Ouais.
Ça t'a fait quoi quand tu as découvert la première fois cette scène-là, toi?
Quand j'ai découvert ma télégravitante, j'étais super contente que ce film existe. Et du coup, je l'ai vu. Il est sorti en... C'est 2020?
Ouais, c'est ça, oui. 2019, mais en fait, comme il y avait le Covid, il est sorti pendant le Covid, donc il a été diffusé, oui, beaucoup en 2020.
Je pense que je l'ai vu en 2020, je crois. En fait, je l'ai vu quelques mois après avoir tourné, du coup, Le Passage du Col.
Ouais. Et tu l'as vu sur Internet?
Ouais.
Ok. Via un festival ou via un...
Je pense que c'était un festival, mais je sais plus lequel.
Ok.
Ça peut pas être Clermont ou...
Si, c'est possible, ouais.
Ouais. En tout cas, c'est la copine Anna dont je parlais tout à l'heure là, qui m'a dit que Anna Sandberg, qui m'a dit qu'elle avait vu ce film, c'était ouf, qui voulait que je le voie, et du coup je l'ai vu, je pense, pendant, mais je me souviens plus, c'était pendant le Covid, mais je sais plus. Et j'étais hyper contente.
Ouais.
J'étais encore plus contente qu'il marche, enfin qu'il soit primé. Je pense qu'il avait déjà été primé. Et je me suis dit, c'est génial, quoi.
Tu t'es trouvé une sœur de cinéma,
c'est ouais, ça ouais, ouais. Ouais, vraiment, enfin, de me dire, c'est super, quoi. Là, on parle de ça, on a envie de le voir, et que ça... Et puis, la manière dont est fait le film, enfin, je trouve, cette entreprise collective, je trouve que c'est très beau, comment ça se met en place, et puis les différents moments, quoi. Là, en fait, la préparation et la... et l'exploration. C'est un peu comme un rendez-vous médical classique où on a un premier, comme dans mon film, quoi. Il y a d'abord l'échange un peu à la table d'examen. On parle de ce qui va se passer. Enfin, dans un rendez-vous médical classique idéal, quoi. Disons, on peut discuter avant les gestes médicaux. Et puis, sauf qu'il n'y a pas de débrief dans un rendez-vous.
Oui.
Enfin, rarement, quoi. Enfin, dans mon film, j'ai pas mis de.
Oui, vous n'avez pas après fait de bilan. Ouais. Mais toi, dans ton film, c'est trop intéressant que ce soit un geste comme ça sur un moment très précis et qui a vraiment. Enfin, en fait, ça. Dans sa durée, il est assez court ton film, et en fait, ça laisse vraiment le temps de méditer ensuite. Enfin, j'aime bien comment tu l'as enserré aussi avec les plans de la rue après et tout ça. Enfin, il y a quelque chose où effectivement c'est plus une relation à deux avec la personne qui te soigne, quoi.
Les plans de rue, en fait, tout ce qui est filmé en dehors du cabinet, on les a fait un an après quasi.
Ok.
Ouais. On le ressent pas du tout dans le film.
Non, c'est vrai.
Et d'ailleurs, on a choisi de diffuser cet extrait-là. On en reparlera ou on peut en parler maintenant. C'est comme vous voulez.
On peut passer l'extrait, mais on va inverser. En fait, on va passer l'extrait. On fera la pause musicale un tout petit peu plus tard parce que c'est vraiment dans le fil de la discussion et pour finir cette discussion ensemble. Passage du col, l'extrait de la rue.
C'est le tout dernier, je pense.
Ça va, Marie?
Ouais.
Je peux poser le spéculum?
Ouais.
Donc ça va juste être un peu franc. Là, ça va?
Ouais.
Et je l'ouvre.
Ouais.
Soufflez. Ok, donc là, je vois bien votre col et les fibres stérilées qui sont bien en place. Hein. Super.
Ok.
Donc je vais enlever le premier stérilé.
Ok.
Avant de poser l'autre.
D'accord. Ok. Coupé. On va la refaire. C'est possible ou pas?
Je l'enlève?
Si c'est possible, ce serait super. Parce que j'ai bougé.
Ça va? Attends. Souffle. Il va être
sale du coup.
Enfin, sale.
Il va être un peu.
Ça se voit.
C'est bon? Ça se voit pas?
Non.
Bah, ça se voit sur la vulve, non?
Ouais, par contre, je vais. Attends.
Je coule?
Non, c'est bon.
Non, c'est juste qu'elle était ouverte.
Ah oui, d'accord. Raccorde-vous, s'il vous plaît.
Je touche.
Vas-y, vas-y. Ok. On refait pareil.
Respire bien, Marie.
Oui. Moteur.
Ça va, Marie?
Ça va.
Donc, je vais vous poser le spéculum.
Ouais.
Je peux y aller?
Ouais.
Ça va juste être froid, j'ai mis un peu de gel dessus.
D'accord.
Ça va?
Ouais.
Donc là, je vais l'ouvrir.
Ouais.
Souffler. Ok, donc là je vois bien votre col et les fibres stérilées qui sont bien en place. Hein. Col magnifique.
Ok. Est-ce que tu peux dire le col, c'est le point noir qu'on voit?
C'est pas un point noir. Le... En fait, votre col, c'est une sorte de. Comme une boule. Et au milieu, il y a comme un petit trou où il y a les fils stérilés qu'on va sortir. Vous êtes prête?
Ça va.
Donc je vais tirer sur les fils pour enlever le stérilé.
D'accord.
Ok. Là, vous pouvez juste sentir que je touche. Là, j'ai attrapé les fils. Je tire un peu dessus. Vous soufflez tout doucement. Voilà, c'est fini. Le stérilé est sorti. Tiens, vous pouvez le regarder. Vous voulez le garder?
Ouais.
Ouais. Bon, je vous mets dans une petite boîte.
Ouais.
Félicitations.
7 ans.
Ok, maintenant on va mettre le nouveau stérilé.
Ouais.
On y va tout de suite?
Non. Coupé.
On vient d'écouter un extrait du passage du col.
Qui n'est pas tout à fait le bon, mais c'est pas grave, on va rebondir. Hein.
C'est pas très grave. Donc dans cet extrait, on est vraiment dans le feu de l'action, c'est-à-dire la pose du stérilet par la sage-femme. Et ce qui est intéressant, c'est que les coupés restent dans le film. J'allais dire restent à l'image, mais on est à la radio, on les entend ici à la radio. La fabrication du film reste dans le film, donc ça c'est intéressant, on va en discuter. On est vraiment là. Moi, je trouve que dans cette séquence, le titre, le passage du col, prend vraiment tout son sens polysémique hein, et imagé. Alors, c'est vraiment une épreuve physique et psychologique. Et quand on est une femme, on la comprend totalement. Et on est vraiment en haleine quand même avec toi, quoi. Quand on a vécu ces moments-là qui quelquefois se sont mal passés, on est haletante.
Je pense même quand on les a pas vécues, du coup, ça nous permet de les ressentir un petit peu à travers le film. Je sais pas si tu as eu des retours de personnes qui n'ont jamais vécu ça et qui...
Et la présence des Noirs à l'écran, à l'image, c'était quoi le but?
C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au générique début, le premier extrait qu'on a entendu au début de l'émission. Où, dans le générique début, on m'entend... dialoguer avec la sage-femme et préparer la scène. On entend aussi quelques personnes de l'équipe qui suggèrent des idées pour la mise en scène. Et puis, on m'entend dire aussi à l'équipe, est-ce que tout le monde est prête? Prête, parce que c'est ce qu'on disait dans le collectif en mixité. Où, voilà, c'était un petit arrangement avec la grammaire que j'aimais bien et que j'ai gardé. Et donc, cette dans le générique début, du coup, c'est l'idée d'introduire un peu les coulisses quoi, du film. C'est une manière, c'est la manière que j'ai trouvée pour un petit peu préparer les spectateuristes au film. Parce que le film, on disait, est en effet assez court. On arrive assez vite dans le cabinet et il est tout de suite question de spéculum, de stérilet, tout ça. Et. Je sais que c'est aussi des endroits qui sont synonymes de violence pour beaucoup de personnes, et donc j'avais envie déjà dans le générique de préparer un peu, voilà dans quel cadre on va être.
Comme l'avertissement, ce film comporte des images explicites.
Voilà.
Mais à mon avis, images explicites, ça peut être différentes choses. C'est pas forcément l'image d'un sexe plein écran, d'un sexe féminin. Je veux dire, quand la sage-femme te présente les instruments, comme tu disais tout à l'heure, presque instruments de torture, quoi. Donc ça, c'est impressionnant.
Ouais.
Et si on a eu un traumatisme lié à ça, pour nous, ça peut être ça, les images explicites.
Oui. Donc je voulais vraiment préparer. Et j'avais aussi envie qu'on sente assez vite qu'il y ait une complicité entre tout le monde et que certes, on est dans un film documentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est documenté. Enfin, il y a un vrai, il y a une performance aussi dans le film. Enfin, il se passe vraiment des choses sur mon corps et voilà. Mais je voulais aussi amener une dimension un peu de mise à distance du documentaire. On n'est pas dans la fiction, mais on est quand même dans de la mise en scène, une scène préparée où. On se tutoie quand on prépare, puis on se vouvoie dès que la caméra tourne. Enfin, voilà, il y avait un jeu comme ça aussi pour installer le cadre en fait du tournage et dire en fait et faire ressentir qu'on est dans un cadre d'écoute aussi, au sein de l'équipe, quoi. Mmh.
Ou bien même de fabrique d'un document.
Voilà.
Qui pourrait être presque didactique en fait par la suite.
Complètement.
Ça devient un document, c'est-à-dire. Puisque moi, j'ai appris des choses, finalement, sur ce geste-là.
Complètement, oui. D'ailleurs, le film, aujourd'hui, est parfois montré dans des cadres universitaires ou dans des colloques de médecins qui s'intéressent à la question du consentement des patients et des patientes. Et je suis contente de ça. Enfin, voilà, qui circule aussi dans ce cadre-là, quoi. Et pour revenir à l'extrait qu'on a entendu, du coup, qui est un peu le moment... un peu auquel j'avais moi envie, enfin j'avais envie d'aller jusque là dans le film, quoi. J'avais envie d'aller jusqu'à filmer en très gros plan mon col de l'utérus et qu'on puisse le voir à l'image. Et quand j'ai fait la première version de montage, enfin du film que j'ai monté toute seule, puis ensuite en étant accompagnée avec une amie réalisatrice et monteuse, Young Sun No, on a travaillé sur le rythme du film et sur comment on peut arriver à cette image sans que ce soit encore une fois trop violent. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a ce noir avant qu'on arrive au grand plan. Enfin, on entend, il y a des rires, il y a quelque chose d'assez détendu qui se passe. Enfin, on prend son, il y a l'ingé son qui me dit de pas oublier de respirer. Enfin, il y avait de l'humour aussi en fait dans ce tournage. Je sais pas si c'était le cas dans son tournage. On les entend rire aussi les filles. Enfin, il y a quelque chose d'un peu comique aussi, comme situation de diriger un film en étant les pieds dans les étriers. Enfin, c'est assez marrant quand même. Et je voulais que ça se sente, quoi.
Moi, je trouve que le rôle de la sage-femme ajoute le fait qu'elle soit très bienveillante, très à l'écoute, et qu'elle t'accompagne en te demandant toujours si ça va. Eh ben, ça sert aussi au spectateur, à la spectatrice. En fait, ça nous accompagne aussi, quelque part, sa bienveillance, qui est quand même... effectivement assez exceptionnel quand tu, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ta relation avec elle, cette rencontre exceptionnelle.
Et puis l'usage de la pellicule que vous avez en point commun toutes les deux dans le film, parce que tu commences ton film, Pauline, avec... Alors pourquoi, effectivement, dans le tien, on comprend parce que ça adoucit tout de suite, et puis cette image de sexe en gros plan, là, on a la radio, ils ne peuvent pas imaginer, nos auditeurs, mais c'est vrai qu'après le noir, si ce n'était pas en pellicule, ça serait violent.
Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de manières de travailler en numérique. Ouais. Après, pour moi, c'est assez compliqué d'être filmé. Enfin, je suis pas très à l'aise devant la caméra, donc autant qu'à passer devant, j'avais envie que l'image me plaise, quoi. Autant qu'à passer devant. Et du coup, cette image pellicule, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le grain. Il y a le côté très pictural que ça apporte.
Presque organique. Ouais. Pour le coup.
Il y a de la douceur, je trouve, même si le grain est assez épais et tout, ça fourmille en fait, mais j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Et en effet, ça, pour moi, ça crée une forme de mise à distance un peu par rapport à une image numérique qui aurait pu être trop, trop nette et tout. Mais en même temps, je dis ça, mais dans son film, Pauline, l'image numérique, je la trouve pas du tout agressive. Mmh. Elle est très douce.
Ouais, non, mais moi, c'est marrant parce qu'on m'a déjà fait le retour sans savoir trop. On pensait que tout le film était en pellicule, alors qu'en fait, c'est mon petit tour de magie, tour de passe-passe. Il n'y a que la première scène, mais après, la suite, même si elle est numérique, bien sûr, j'ai rajouté du grain, enfin voilà. Mais je pense peut-être dans ton film aussi, au-delà du rendu de l'image, le fait que peut-être sur le tournage, vous ayez pas de... Vu que vous avez tourné en 16 mm, c'est ça ?
Et en Super 8.
Et Super 8, t'avais pas de retour vidéo, donc il y a aussi la mise à distance, pas que peut-être sur le rendu final de l'image, mais sur le moment du tournage où t'avais pas d'écran... Et peut-être que ça provoque quelque chose aussi de faire un tournage où vous filmez et tu regardes après. Enfin, je sais pas.
C'était hyper important.
Ouais.
C'était super important qu'il n'y ait pas ce retour vidéo et la possibilité de regarder les images tout de suite. En fait, comme ça, on était vraiment concentré sur ce qui était en train de se passer là. On passait beaucoup de temps à préparer les plans. C'est aussi pour ça qu'il y a assez noir et on nous entend parler, parce qu'on. Ben voilà, quand on est en pellicule, on doit beaucoup mesurer la lumière et être sûr que les choses sont bien calibrées, voilà, avant de tourner, quoi. Et c'était essentiel que, en fait, on fabrique les images, mais qu'on puisse pas tout de suite les regarder, les juger, les voilà. Et en fait, ça a mis beaucoup de temps avant que je les voie.
Ah ouais,
c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai tourné donc en novembre 2019, et je les ai vues, les images, en janvier. Parce que je les ai développées moi-même à l'Abominable, le laboratoire de cinéastes qui était à l'époque à la Courneuve, qui est maintenant à Épinay-sur-Seine, qui est en train de devenir le navire Argo. Et du coup, j'ai développé les images à 16 mm dans la développeuse de l'Abominable. Et donc, j'étais voilà, la première, aller voir, et c'était assez magique de voir l'image sortir de la développeuse encore toute humide. Donc c'est du négatif couleur, donc sur le négatif, sur la pellicule, en fait, les couleurs sont inversées, mais surtout, il y a une sorte de... Il y a ce qu'on appelle un masque orange, qui fait que, en fait, les couleurs ne sont pas du tout réalistes, quoi, sur le négatif, physique, quoi, sur la pellicule. Et du coup, j'ai vu mon col de l'utérus un peu en orange inversé. Ça ressemblait à une navette spatiale, c'était surréaliste, avec la pellicule qui était encore toute mouillée. C'était hyper émouvant moment. Et c'était aussi très important pour moi dans tout ce processus de réappropriation de mon corps et de mon image, aussi d'être la première à aller voir et de toucher, quoi, cette image.
On va faire une petite pause musicale, mais on reste dans le thème puisque c'est les vulves assassines.
Et donc ça vient d'Emile Eva.
Voilà.
Mileva tête de cul, Mileva jambes de bois. Dans la cour de l'école, toutes les gamines se foutent de moi. Mais moi, je m'en cogne, je suis moins conne que ça. Elles finiront toutes putes hongroises. À 10 balles la passe, cimière l'angoisse. Leur chie à la face, quand on leur hydrater. Moi, j'ai de la suite dans les idées, un gros cerveau dans une tête. Moi, j'aurai la gloire et du fric plein les poches. Plus tard, je serai physicienne, j'inventerai une arme terrible. Et je leur foutrai bien profond dans le flexible.
Sorry.
toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans homme aujourd'hui. Effectivement, on a fait très fort. Et donc avec nous, il y a Pauline Pénichoux pour Bat-elle est gravitante, Marie Botois avec Passage du col. Et on n'a pas répondu à une des questions. On se demandait pourquoi tu avais utilisé au début de la pellicule. En fait, pour la scène dans la baignoire qui est très intime, effectivement, et après, alors est-ce que ça coûte trop cher? Non, c'est pas pour ça.
Oui, bah en fait, oui, déjà, en plus, c'est de la pellicule 35 mm, donc j'avais besoin d'une assistante caméra pour m'aider à faire ces plans-là. Et en fait, ça n'a. Le dispositif de tournage a été un peu divisé en plusieurs parties. Donc je passais un mois à Nantes et la plupart du temps j'avais cette toute petite caméra numérique qui était limite dans mon sac et je filmais un peu en suivant Matt. Et en fait, à la fin du tournage, je me suis dit, j'ai quand même envie, en plus, donc j'ai fait des études d'image à la Fémis et j'avais récupéré en fait deux bobines de pellicule 35 mm de la Fémis. Donc c'était un peu des bobines déchets quoi, que j'avais récupérées. Et je m'étais dit, je vais m'en servir pour faire des images un peu plus tableau, un peu plus onirique et tout ça. Et ça pourra toujours peut-être me servir pour le montage. Et en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'à la fin en fait, de ce mois passé à Nantes, j'ai proposé à Matt de faire aussi des plans plus posés, plus mis en scène avec elle et sa sœur. Et en fait, voilà, à la fin, au moment du montage, avec la monteuse, on s'est dit que ça pouvait servir de présentation. Donc finalement, c'est les plans que j'ai tournés à la fin du tournage, mais que j'ai montés au début du film et qui sont un peu des plans comme toi, Marie, dans ton film, tu utilises pour faire rentrer un peu dans ton film ces sons d'équipe et d'image au noir. Et moi, je me suis dit, bah, pour présenter Matt, c'est bien de commencer par aussi c'est son portrait, donc un gros plan et un plan voilà en pellicule assez travaillé au niveau de la lumière et tout ça pour permettre d'entrer dans le film. Ouais.
Et ça évoque aussi ton mémoire qui s'appelle Distance filmique, c'est la bonne distance à ton personnage. Il y a aussi ça parce que non.
En fait à la Fémis on fait un film de fin d'études et aussi un mémoire. Et mon mémoire, c'était sur la distance dans le cinéma documentaire. Et du coup, c'est ça. En fait, c'est une année qui était assez riche, où je me suis posé plein de questions, où j'ai regardé des films un peu. Et je me suis posé beaucoup de questions sur la distance à la personne qu'on filme, quand on cadre et qu'on réalise aussi en même temps. Et c'est sûr que pour moi, c'est un... En tant que, comme je fais des images, c'est une question qui me traverse tout le temps de savoir est-ce que je suis à la bonne distance, à la fois, le lien entre la distance physique et la distance point de vue, quoi. Mm-hmm. Voilà.
On peut le lire ce mémoire, il est disponible.
Ouais,
j'ai trouvé sur internet.
Il est en ligne, ouais.
Ouais. Effectivement, parce que tu dans le mémoire, effectivement, il y a un moment, tu dis Matt, je ne l'ai pas filmé à la même distance que les autres. Bon, tu savais déjà que c'était ton personnage, mais tu ne l'as filmé pas pareil que les autres dans les ateliers de gynécologie, dans le débriefing.
Ouais, complètement. J'ai voulu que ça se ressente, dans les plans, en fait. Je trouve que c'est hyper important, on veut faire pour que le film... soit juste de mon point de vue à la fois politiquement, éthiquement et esthétiquement, je trouve que tout est lié et en fait il faut se poser ces questions-là d'image quand on filme quelque chose. Voilà.
On s'est demandé d'ailleurs si toi à un moment tu t'es posé la question est-ce que ça pouvait être une actrice ou pas, c'est forcément toi, mais une actrice tu l'aurais filmé à quelle distance du coup
J'aurais pas pris l'actrice.
Pas pris
non, l'idée c'était de... En fait c'est aussi un... du coup c'est peut-être ce qui sépare le plus les deux films, c'est ça, c'est que moi je me mets en scène et toi tu filmes quelqu'un d'autre, du coup c'est pas en effet les mêmes enjeux qui se posent, mais moi c'était aussi un film ce dont je parlais tout à l'heure de la réappropriation aussi de son corps et la prise en main, en fait, la prise qu'on peut avoir dans un rendez-vous médical. Et du coup, il fallait que ce soit enfin, du coup, forcément moi, la personne qui réalise et qui filme, qui, enfin, qui, la personne qui réalise, qui décide de comment elle est filmée, en fait, et que ça se voit dans le film. C'est pour ça que j'ai gardé aussi ces moments de couper, action et de clap, pour qu'on sache que la personne, voilà, qui est dans cette position, qui est habituellement une position de vulnérabilité, soit en fait
que tu diriges en même temps.
Voilà, en position, voilà, d'être actante, active et pas seulement sujet d'observation, quoi, mais vraiment qui est apprise sur ce qui se passe et ce qui devrait se passer habituellement dans tous nos rendez-vous médicaux.
C'est toi qui pose des limites aussi, voilà, quelque part. Voilà. Mais à la fois, tes limites physiques. C'est ça qui est fort dans le film, c'est à la fois tes limites physiques et psychologiques à toi, parce que tu subis un acte médical, et aussi les limites dans la réalisation du film.
Oui.
Les deux limites.
Oui. Oui, oui.
Et comment vous avez discuté avec la cadreuse en amont de ça ?
Du coup, elles sont trois. On était nombreuses. C'était un super rendez-vous gynéco. C'est super d'aller avec des amis.
Tu te sentais soutenue.
Je me sentais hyper soutenue. Ça a donné beaucoup de force. Donc il y a une personne qui fait la caméra Super 8. On avait décidé qu'elle serait de mon côté et qu'elle filmerait le visage de la sage-femme. Il y a deux personnes au 16. Il y a une personne qui a fait la scène au bureau. Et une autre personne qui a filmé le sexe, parce qu'il y avait une des deux chefs-op qui ne voulait pas être du côté de la sage-femme pendant l'examen médical. Et on avait... depuis le départ, je voulais faire un film en champ contre champ et à deux caméras, parce que je ne voulais pas refaire certaines choses. Et du coup, on a filmé comme ça, en croisant quoi, les caméras. Et en fait, j'avais pris des photogrammes de Regarde, elle a les yeux grands ouverts, le film dont on parlait tout à l'heure. J'ai fait un petit montage, quoi. Et je leur ai dit, voilà, tel type de cadre, ça m'intéresse. Parce que j'ai pas fait de dossier avant le film. En fait, on a tourné sans avoir d'argent avec le matériel des laboratoires de cinéma argentique l'Etna. Et du coup, j'ai pas eu à écrire, mais par contre, j'avais vraiment préparé une sorte de découpage à partir de photogrammes. Et on avait fait une répétition aussi. Chez moi, sur ma table à manger, avec des lumières et tout. Et puis, sur le moment du tournage, il y a mon compagnon aussi qui a fait la doublure lumière, qui s'est mis sur les pieds dans les étriers. Et c'était le seul homme présent sur le tournage. Et on a réglé les lumières. Et puis, j'ai regardé un peu dans la caméra, quoi, ce que ça pouvait donner. On a préparé comme ça.
Ok.
Il y a un point commun dans vos deux films, par contre, c'est il y a de l'écart par rapport au gynécologue. Dans ton film à toi, c'est une sage-femme, et là, c'est de l'autogynécologie. Et donc, on a choisi un extrait, donc on va parler après cet extrait, où il y a même une personne qui dit qu'elle n'a jamais vu de gynécologue, et je pense que pour toutes les deux, c'est important ce côté-là. Donc, le deuxième extrait de Ma télégravitante. S'il te plaît, Anne.
Moi, je voulais juste parler d'un petit truc que j'ai vu. En gros, il y avait une copine qui était là, qui avait ses règles, et genre du coup elle s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'elle le faisait ou pas et tout, parce que bon, c'était un peu plus chaud, elle disait qu'elle avait pas trop envie d'en foutre partout et tout, et au final elle s'est lancée parce qu'elle avait grave envie de le faire, et c'était vraiment trop chouette parce que du coup vu qu'on pouvait voir dans le miroir, avec le spéculum, en fait à un moment on a juste vu son utérus faire une sorte de spasme comme ça et lâcher une toute petite perle de sang, tu vois. Et du coup, tu vois vraiment le mouvement, alors que moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, donc j'étais en mode waouh, c'est un truc de ouf.
Mais c'était cool aussi la copine qui était en médecine, qui était là. Ça avait un petit côté aussi, ou si on avait des questions, ou si on voulait préciser des trucs.
Moi, ça m'a fait un peu un truc de quelqu'un qui a la vision médecine, en fait, même si je sais qu'elle a quand même des positionnements hyper finistes par rapport à plein de trucs. Il y a un truc qu'elle m'a dit à un moment qui m'a un peu heurté, c'est non, mais de toute façon, les médecins, ils veulent toujours faire au mieux. Voilà, je pense que ça nous a toutes marquées. Enfin, t'es dedans, en fait. T'es dans ce truc où on te dit que tu vas détenir des savoirs, des pouvoirs, que tu fais partie d'une certaine élite au niveau des connaissances que t'as et au niveau de la position sociale que tu veux occuper. Et tu peux pas nier, en fait, que t'es... Enfin, j'ai envie de lui dire ça, copine, tu peux pas nier que t'es un peu influencé par ça, en fait, même si t'essaies de t'en détacher. Et voilà, pourtant, je dis ça alors que c'est une super pote à moi, donc...
Et du coup, moi, je me suis dit, ça m'intéresse, j'ai trop envie. Je suis jamais allée voir de gynéco pour, parce que je suis gouine, parce que tu te sens pas concernée, parce que t'as peur de subir des discriminations, parce que tu t'en fiches un peu. Et je me suis dit, ça m'intéresse trop, mais en fait, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je vais y aller et en fait, juste trop paniquer? Ou est-ce qu'en fait, ça va me plaire? J'en avais aucune idée, du coup, je suis pas pu venir. Mais la plupart de vos retours, du coup, ça m'éclaire sur la façon dont ça s'est passé. Et c'est chouette que vous en parliez tous et toutes.
En même temps, ça révèle un truc assez clair de Alexis. Est-ce qu'on parle à vite dans les vestiaires, zéro gêne, quoi. Même avec des personnes avec qui on est censé être à l'aise, il y a des trucs qui kéblo, en fait.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, mais oui, mais
la radio sans Dieu. Ni maître,
ni publicité, c'est ça. On est super synchrone, Mélanie. On est toujours avec Marie Beautoit pour son film Le Passage du Col et Pauline Pénichou pour Ma télé gravitante.
Et donc, c'était bien un extrait de Ma télé gravitante qu'on a entendu. Et Pauline, donc, la question qu'on se pose, effectivement, c'est quand elle dit qu'elle peut pas, elle n'a jamais été voir un gynécologue à 16 ou 17 ans.
Non, elle est plus âgée.
Elle est plus âgée,
ah, oui,
pardon.
Elle a plus de 20
ans, oui, c'est vrai qu'on est, je sais pas, elle a une vingtaine d'années, oui, quoi. Oui. Et moi, je pense que le fait d'être lesbienne ou pas, ça, c'est pas ça le problème. C'est plus le rapport au...
À la médecine.
À la médecine, quoi. C'est, alors, pourquoi il y a eu des expériences traumatisantes ou pourquoi le rapport à la... Parce qu'elle le dit bien, il y avait une doctoresse avec eux.
Quelqu'un. Ouais, alors, enfin, ouais, je vais pas parler au nom des personnes
non,
que j'ai filmées qui ont chacun leur avis, mais en tout cas, c'était important pour moi au montage de restituer une de la contradiction en fait, et parce que en fait, dans le moment que j'ai filmé, il y a eu de la contradiction, et comme dans tout milieu militant, si vous connaissez un peu, il y a souvent des avis qui divergent, et c'est ça, enfin, le débat un peu pour... Donc en fait, nous, pendant l'atelier, effectivement, il y avait une personne qui était là et qui faisait des études en médecine, qui, donc je l'ai filmée et ça se voit un petit peu, elle donne plus de conseils, c'est elle qui explique un petit peu à certaines où se situe le col, quelle est la position la plus adéquate pour le voir avec le spéculum, etc. Et la personne qu'on entend donc dans la scène d'après qu'on vient d'écouter pendant le débrief en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas là pendant l'observation et qui du coup explique que en fait ça l'intéresse d'un point de vue un peu théorique, mais que en fait oui, c'est une personne qui se tient plutôt à distance de la gynécologie, voilà. Et du coup ouais, je pense que c'est quand même, enfin moi ça me semblait assez représentatif, enfin, et pour parler de moi aussi, parce que je suis, enfin, justement, je me suis pas filmée, et donc je pense qu'à travers les personnes que j'ai filmées, j'essaye aussi d'essayer de montrer quelque chose qui se rapproche de ce que j'avais l'impression était réel au moment où je l'ai filmé, mais aussi moi, mon rapport à ça, je pense que je me tiens très à distance de ce monde des gynécos et tout ça, et c'est pas quelque chose que, enfin, effectivement, je peux que comprendre les réticences qu'on peut avoir à ne pas vouloir aller chez le gynéco. Et voilà. Donc c'est cette scène de débrief, moi je trouvais ça super important de la mettre dans le film et d'essayer un minimum de restituer un petit peu les contradictions entre les filles qui étaient là.
Et les scènes d'auto-gynécologie comme ça, il n'y en a pas souvent apparemment quand même. T'es tombée au bon moment pour ton film, non?
En fait, après, donc avec la diffusion de mon film, j'ai rencontré aussi des associations et je sais qu'il y a des assos, des collectifs qui font de l'auto-gynécologie un peu régulièrement, et je pense qu'en se renseignant sur internet on peut trouver si on est intéressé par ça, mais moi oui, le groupe que j'ai filmé, c'était vraiment une action spontanée et c'était pas dans l'idée de créer un collectif ou quoi que ce soit suite à ça.
Dans Passage du col, ouais, toi, tu as choisi effectivement aussi qu'une sage-femme serait.
Pour moi, c'était important que ça ait lieu dans le cadre médical, un peu dans une démarche qui est pas contradictoire, mais qui se complète, je pense, avec la tienne. Enfin, je pense que c'est essentiel, en effet, qu'il y ait des groupes d'auto-gynéco qui sont aussi des groupes d'auto-formation, en fait. Et après, c'est évident que ça correspond pas à tout le monde, et aussi c'est souvent plutôt dans les milieux militants. Il faut, les personnes qui sont pas dans ces milieux peuvent aussi être, plus éloignées de ces pratiques-là. Et du coup, ces personnes-là se confrontent au corps médical comme on en a, plutôt l'habitude, quoi. Et du coup, j'avais envie de montrer que c'est possible, en fait, et nécessaire que ce soit dans le corps médical, au sein de l'institution médicale, disons, plus au sens large, qu'on puisse exiger au sein de cette institution d'être traité correctement, avec bienveillance, avec écoute et tout ça, quoi.
Ouais.
Et que c'était possible.
Ouais. Mmh. Et c'est possible, pardon. Oui. Pardon.
Pour aller dans le sens de ce que tu dis, dans la scène de mon film qu'on vient d'entendre, il y a une des personnes qui dit, et c'est une phrase que je trouve, qui moi me parle beaucoup, qui explique qu'en fait, quand on fait des études de médecine, on doit avoir conscience du fait que c'est ensuite on va être dans une position dominante par rapport aux personnes qui n'ont pas fait ces études-là, et que ça nous donne une responsabilité, en fait. Et elle le dit pas exactement comme ça, mais en gros, moi, c'est un peu ce que je pense, c'est que en fait, c'est pas les médecins ou les gynécos le problème, c'est juste qu'en fait, il faut, et c'est ce que tu essayes de faire avec ton film aussi, je pense, de changer un peu ce rapport à ça, et quand on est dominant, en avoir conscience.
Exactement. Il ne faut pas que ce soit une relation de domination,
voilà.
Normalement. Puisqu'on intervient sur notre corps, il faut que ce soit à égalité pour être en confiance, et même pour qu'on soit respecté, finalement. C'est aussi une relation de bienveillance et de respect qu'on ressent dans ton film, Marie, et on va écouter un troisième extrait de ton film. Le passage du col, c'est un extrait qui arrive vers la fin, qui conclut un peu ton film. On va l'écouter tout de suite. Le dernier extrait de Passage du col.
Ça tombe pas ?
Non, ça tombe pas.
Vous vous sentez toujours bien ?
Ouais, ça va. Je vous dois combien ?
38,40 €. Dans les 24-48 heures qui viennent, vous pouvez avoir des pertes de sang, des contractions utérines, et n'hésitez pas à prendre des antalgiques.
D'accord.
Si jamais ça va vraiment pas, vous pouvez passer un coup de fil. Je vous ai mis mon numéro sur la carte du CALA.
D'accord.
Et merci. On se revoit dans 2 mois pour la visite de contrôle.
Ok.
Radio Libertaire, dans l'émission On a déjà traité le sujet. Dans le studio aujourd'hui, Marie, Pauline,
Colline, Mélanie et moi-même, Samia. On vient d'écouter un extrait du film de Marie Beautoit, Le passage du col. Alors cette séquence, c'est vraiment la fin du film. On entend le travail sur le son, le bruit des talons sur le bitume, le vol du pigeon. Alors on se demande, la musique évidemment, on se demande si ces sons ont été accentués, et puis pour quel effet, pour provoquer quelle sensation. Bon, nous en tant que spectatrices, on ressent des choses. Évidemment, la consultation se termine, la relation avec la sage-femme est toujours aussi bienveillante, toujours aussi à l'écoute. Et Marie, qui vient de subir un examen, comme on a dit tout à l'heure, pas tout à fait anodin, sort de la consultation et revient dans la vie quotidienne, revient au monde, après ce geste médical.
Bah, c'est tout à fait ça. C'est comment sortir du huis clos, enfin du cabinet, dont on, enfin, voilà, la bulle quoi dans laquelle on est, dans lequel le film aussi nous a mis quoi. Je voulais qu'on puisse sortir, et enfin parce que c'est aussi l'expérience qu'on est nombreuses à faire. Enfin voilà, on sort d'un rendez-vous comme ça et on retrouve, enfin on croise des gens dans la rue et on vient de vivre ce qu'on a vécu et on est un peu chargé tout ça, et c'est un peu retrouver un rapport au monde. C'est aussi une manière de dire que c'est un geste finalement pas anodin mais assez commun. Enfin voilà, qui est, et du coup je voulais aussi faire, enfin qu'on puisse sortir du film assez doucement. À la fois, il y a cette idée d'avoir des petites informations sur le prix de la consultation, sur, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on va voir une sage-femme, bah, c'est moins cher qu'un gynécologue, c'est pas le même rapport, quoi, tout ça. Donc, je voulais que ce soit dit, et puis ensuite, on a travaillé avec la monte-son et mixeuse Nathalie Vidal pour qu'il y ait une sortie progressive dans la rue par le son. Donc ces bruits qu'on entend un peu de l'extérieur depuis l'intérieur, puis ensuite on est carrément dans la rue. J'ai enregistré mais pas au Père Lachaise parce que c'est un endroit assez calme, et puis ensuite on a tourné les plans dans la rue, donc un an et demi après le tournage dans le cabinet. Et parce que voilà, pour qu'on puisse sortir du film, que le film s'arrête pas sur le geste en fait médical simplement, mais que ça fasse film en fait. C'est aussi la monteuse Yung-sun No qui m'avait aidé en fait à trouver cette fin. Voilà, et puis ensuite je remercie vraiment Konisho A, Morgane Carnet et Blanche Lafuente qui m'ont permis d'autoriser d'utiliser leur musique en fait. J'ai trouvé super pour sortir aussi avec douceur et un peu de, je sais pas, comme un petit baume ou quoi, oui, sur le corps,
un petit soulagement. Et toi, Pauline?
Mais on va prendre le dernier extrait, puis on part juste après, derrière, quand on a le temps, ouais. Anne, de mettre le dernier extrait du film de Pauline. Ça sera plus facile juste derrière d'en parler.
Et ouais, je crois que j'ai eu un peu cette révélation là cet été de oh my god, le consentement. c'est hyper important. Et qu'il y a plein de fois où j'ai peut-être pas été chouette avec des personnes parce que j'avais envie de faire l'amour et ça se trouve, elles avaient pas envie. Et inversement, quoi, il y a plein de fois où j'ai fait l'amour alors qu'en fait, ben, j'en avais pas envie. Et du coup, j'ai plus envie que ça se passe. Et j'ai envie d'être claire sur ces choses-là. Mais c'est plein d'autres questions. La pédagogie, ce qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune. Toi, t'es une femme, toi, t'es un homme. C'est un peu compliqué, quoi.
Et est-ce que t'es amoureuse?
Ben, je crois. Mais je crois que je suis amoureuse d'une personne, mais que ça aurait pu être plein d'autres personnes. Je crois que c'est juste que j'aime être amoureuse et que je suis souvent amoureuse et que j'aime les gens. J'aime les gens qui m'entourent et j'aime les corps, j'aime la peau. Et j'aime être amoureuse. Alors du coup, là, j'ai rencontré quelqu'un de sympa. Alors désolée, je suis un peu amoureuse de cette personne. Mais je pense que...
Pourquoi tu dis désolée?
Bah parce que, je sais pas, c'est pas facile d'être amoureux. Et je sais pas si cette personne, elle a envie que je sois amoureuse d'elle. parce que je suis un peu hyper tactile, j'aime beaucoup faire plein de câlins et que je crois que c'est une personne qui aime bien ça aussi, mais peut-être tranquille. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais surtout, j'arrive pas à me rendre compte, de... Enfin, je pense que je peux être amoureuse de plein de personnes et que au fond, je le suis et que là, c'est parce que je suis en train de vivre une relation où on fait du sexe et on se dit plein de choses mignons. Et du coup, oui, je suis plus amoureuse de cette personne-là en ce moment, mais je sais que mon cœur, il est super grand et que j'ai envie d'aimer plein de gens et que j'aime plein de gens, même sans faire du sexe avec eux et elles.
Donc c'est la seule fois que tu interviens dans le film, on entend ta voix, Pauline, là.
Ouais.
Là, tu t'impliques. Alors bon, bah, ça ne s'est pas fait dans ce sens-là au tournage, mais ça arrive à la fin du film. On a l'impression que la relation est aboutie, et ça y est. Et tu savais déjà ou c'est venu au montage que tu finirais comme ça?
Non, c'est venu au montage et en fait, cet entretien... Alors, je l'ai quand même... c'est pas la première chose que j'ai tournée avec Matt du tout et c'était quand même plutôt vers la fin, hein, puisque... Ouais, c'était après l'atelier d'autogynécologie, par exemple. Mais en fait, ouais, ce témoignage un peu face caméra, très frontal, comme ça, il était vraiment incroyable dans son entièreté. Et avec la monteuse, Sarah, on s'est vraiment beaucoup posé la question de sa place dans le film. Voilà, on a fait le choix d'en garder... une vraie durée, et parce que justement Matt, j'ai trouvé que c'était pareil, hyper touchant d'avoir ce témoignage là et aussi assez elle a une capacité à parler de ce qu'elle ressent que je trouve que j'admire beaucoup et que ouais c'est ça et qui je pense méritait d'être vu et entendu par tous et toutes. Donc voilà.
Est-ce qu'il faut du courage toi pour faire un film comme ça par contre?
Je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire, mais je sais pas, mais en tout cas moi je trouve que c'est très courageux aussi de se filmer, d'être devant la caméra, de faire ça, enfin, et puis c'est Matt aussi que je trouve hyper courageuse d'avoir accepté que je fasse ce film.
T'avais carte blanche sur tout?
Non, pas du tout.
Vous avez posé des limites quand même, parce que justement.
Ouais, en fait, moi je me souviens que au début, justement, quand je lui ai dit que je voulais faire un portrait d'elle, elle m'a dit tu me diras un peu qu'est-ce que tu veux faire comme type de portrait. Dans le sens, elle avait très bien compris qu'il fallait qu'on cadre un peu les choses ensemble oui il y a eu des, notamment en fait par exemple c'était discuté avec la scène de fin où elles sont à la plage, il y avait eu cette question, est-ce qu'on met des HF ou pas, et ça par exemple Matt elle a refusé et on en a discuté parce que moi de base on est arrivé avec l'ingénieur du son Flavia, on s'est dit on te met un HF. C'est un micro cravate en fait, et ça Matt par exemple elle m'a dit non, enfin un micro comme ça qui suppose qu'on peut potentiellement enregistrer tout ce qu'elle dit, ça elle était pas d'accord, et donc on a complètement compris cette limite là et on s'est dit du coup il y avait la perche et il y avait pas de HF quoi.
C'est vrai que dans le film comme ça vient juste après ce témoignage qu'on vient d'entendre, en fait il y a pas besoin de son derrière.
Ouais.
Pratiquement. C'est tellement ce qu'on a entendu avant qu'on imagine.
Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Quand tu dis c'est courageux, c'est aussi ce qu'on m'a dit souvent sur mon film. Mais en fait, au moment où on le fait, on ne pense pas à ça. Enfin, j'ai l'impression que moi, j'ai fait ce film aussi. Et j'imagine, toi, il y a un peu de ça aussi, en se disant il faut montrer ça. Il y a quelque chose d'un peu d'une nécessité politique
complètement.
À le faire. Et c'est ce qui m'a porté aussi. Et aussi, par exemple, je n'aurais jamais fait ce film sans l'équipe du tournage, que j'aimerais aussi remercier ici, si j'ai le temps. Les trois chefs opératrices, Agnès Perret, Frédéric Menon et Carole Grand, et l'ingé son Perrine Michel, et les talonneuses Jade Gomez et Nathalie Vidal, j'en ai déjà parlé, mais En fait, c'est aussi, on est porté par cette équipe, quoi. Et si ces personnes n'avaient pas accepté de faire le film avec moi, il n'y aurait pas eu de film.
Et puis c'est des films, en plus, qui ont coûté moins cher grâce à ça, parce que comment elles ont été produites, justement, c'est une des dernières questions qu'on va pouvoir se poser, parce que ça va être court. Très, très brièvement, comment est-ce que...
Grâce au laboratoire de cinéma argentique et grâce aux personnes que j'ai rencontrées là-bas qui se sont engagées sur le film.
Tu avais une production ?
Non, c'est pas auto, c'est un film autoproduit. Après, on a fait du troc, quoi. Enfin, je les ai aidés sur leur film. Et puis, puis j'ai eu de l'argent, en fait, après coup, j'ai eu l'aide à la qualité.
Après réalisation
du CNC, ouais.
Toi aussi, non ?
Moi, pour le coup, c'était un film. Bien produit par mon école, la FEMIS. Ouais. Et c'était le budget de mon film de fin d'études qui m'a permis de faire ça. Et tout était assez cadré, même les temps de montage. Mais moi, ce que j'ai trouvé. Ce qui était important, c'était qu'au moment où je faisais le film. J'étais justement, il y avait ce désir politique de pouvoir faire quelque chose qui puisse ensuite être vu, mais déjà je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi largement diffusé, donc ça c'était une grosse surprise. Et en fait le moment où on l'a fabriqué, c'était d'autant plus important pour nous de le faire dans une bulle un peu dans notre environnement à nous. Et en fait je l'ai assez peu montré je l'ai montré que à les intervenants avec qui on était obligés de montrer le film, mais on l'a fait vraiment entre nous, voilà, avec
safe space.
Voilà, c'est ça. Et pour ensuite être assez fiers de l'objet qu'on avait fait pour pouvoir le diffuser et vivre sa vie, c'est ça.
Mais on peut quand même noter que c'est deux réseaux particuliers, un peu alternatifs quand même, finalement. D'un côté, d'un côté l'ETNA et de l'autre dans le cadre d'un enseignement, d'une école. Donc c'est quand même des réseaux un peu particuliers. C'est pas le réseau traditionnel de production d'un producteur.
Et on se demande de quel producteur aurait accepté ce genre de film, sinon quoi.
Est-ce qu'il y en a? En tout cas, comment ils auraient réagi?
Je vais pas raconter ce qu'on m'a dit. Non, mais en fait, à un moment donné, j'ai cherché de l'argent. Après l'avoir filmé, j'ai demandé l'aide Cinéma 93. Et c'est vrai qu'il fallait avoir une boîte de prod pour déposer l'aide. Il y a une boîte qui a accepté de faire vraiment un peu, de déposer avec moi. Et vraiment, c'était top. Mais c'était pas pour produire le film, c'était plutôt pour m'aider, quoi. Et puis il y a une autre personne que j'avais contactée aussi dans l'idée peut-être plutôt qu'il y ait un vrai échange aussi artistique autour du film. Cette personne m'a répondu, et c'était déjà très chouette qu'elle me réponde, mais elle m'a dit que pour elle, peut-être le plan du sexe n'était pas nécessaire dans le film. Tout en respectant mon geste, c'était pas du tout.
C'est plutôt film après.
C'était pas mon film du coup, mais. Mais oui, en effet, je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé de l'argent pour le faire.
Le plan du paysage du col. Alors qu'on doit passer le col
pour ce film de montagne.
Et merci à toutes, parce que malheureusement, ça va s'achever. On va finir par un agenda pour voir d'autres films, parce que film documentaire, Colline, donc à toi.
Donc ça continue, merci Mélanie. Donc les dates à noter dans vos agendas de décembre. On vous convie au prochain samedi d'Adoc, le samedi 14 décembre à 11h, au cinéma Le Luminor, à le métro Hôtel de Ville. Vous pourrez y voir Nos vies adultes d'Alexandre Hilaire, que nous avons reçu le mois dernier avec Valentine Varela. Devenu cinéaste, Alexandre Hilaire revient dans son lycée professionnel. À travers ses souvenirs, il raconte un système scolaire qui a longtemps dévalorisé les filières pro et évoque les rêves d'ados auxquels on tente de s'accrocher. La projection sera suivie d'un débat animé par Jean-Luc Sesco et en présence d'Alexandre. À ne pas rater non plus les pitchs d'Adoc, le jeudi 12 décembre, au centre Paris à Nîmes, dans Paris 10e. Pour le moment, les matinées des pitchs affichent complet en présentiel. Vous pouvez y assister en visio ou vous inscrire sur la liste d'attente. Le lien est sur le site d'Adoc. Il reste des places pour l'après-midi, pour la projection de L'effet Bahamas d'Hélène Cruzilla. Ne tardez pas à vous inscrire. Les projections des semaines prochaines de Un docu près de chez vous.
Vous pouvez voir Gypsy et Maude de Catherine Tissier le 16 décembre à Saint-Maur-des-Fossés. Nous ne vendrons pas notre avenir de Niki Velisarolopoulos les 26 et 28 décembre à la Cinébathèque Robert-Linen, Paris. Des autres projections des réalisateurs et réalisatrices ad hoc ce mois-ci à noter dans vos calendriers. Au 29e rencontre du cinéma documentaire sur le thème de Proche en Proche, vous pouvez voir Hérédita de Jean-Luc Sesco, lundi 2 décembre à 18h au cinéma Le Méliès à Montreuil. Vous pouvez voir également Béziers, l'envers du décor de Daniel Kupfenstein, lundi 9 décembre à 19h à Perpignan et mercredi 11 décembre à 20h à Metz. Aujourd'hui, si vous êtes à Paris, vous pouvez assister aux dernières projections du festival Vrai de Vrai qui projette les 30 films étoilés de la SCAM au MK2 Bibliothèque. Ce soir, il y a Bon Voyage de Karine Birger et le film de clôture Ernest Cole, photographe de Raoul Peck. Enfin, rendez-vous aux ateliers Varan pour les soirées à l'œil sur le thème Initiation au voyage. Jeudi 5 décembre, vous pouvez voir les films de Robert Cahen en sa présence. Nous vous signalons aussi un débat à la librairie Publico autour d'un livre écrit par Hélène Hernandez, La guerre contre les femmes contre la guerre. C'est le 7 décembre à 18h, à 16h, 7 décembre à 16h. Voilà, j'ai encore un peu de temps. On peut dire. ne ratez pas le festival Work in Progress Performance pour sa 9e édition du 5 au 7 décembre à Communimage à Saint-Ouen. Vous y découvrirez une trentaine de nouveaux projets filmiques, du court au long métrage, de la fiction au documentaire, à la fois d'auteurs et confirmés et débutants.
Et voilà. Puis on leur laisse la parole juste avant quand même
pour savoir où est-ce qu'on peut voir vos films.
Exactement. Voilà.
Alors, Pauline.
Oui, moi, il n'est pas disponible en ligne.
Sur
Tank,
non ? Mais sur
Tank payant, alors peut-être sur Tank.
Sur Tank en
sinon, en fait, il faut juste envoyer un petit mail à la FEMIS.
D'accord.
Et comme c'est eux qui gèrent la diffusion du film, voilà. Ou sinon, mon contact est trouvable aussi et j'envoie le lien avec plaisir. Mais c'est vrai que je ne le mets pas en ligne. De manière publique, parce que comme il y a des images de
intime.
Nudité intimes, voilà,
normal.
Explicite.
Voilà. Donc, bah, moi, pour le coup, il est visible sur Tank en VOD, je crois. Enfin, j'ai pas vérifié pour Matt, mais comme il y était aussi il
n'y
a pas longtemps, je pense qu'il est aussi disponible en VOD, donc c'est 2 euros pour le louer, quoi. Et il y aura une projection le 11 décembre à. Je ne sais plus quelle heure, je crois 18h30 en soirée au 102. C'est dans le cadre du festival organisé par Cinex, donc le 11 décembre, et il sera montré avec le film de Louise Aymon, Voyage de documentation de Madame Anita Conti, que j'ai monté. Et il sera aussi, alors j'ai pas les dates pour l'instant, mais j'ai appris qu'il avait été sélectionné dans le festival de documentaire sur grand écran Best of Doc. Et je crois que ce sera au printemps 2025.
Voilà. Une minute d'Aretha Franklin, respect pour partir, et ça sera fini, on va passer la main.
Merci beaucoup.
Merci. Ouais.